Bonsoir, mercredi 15 mars 2023, il vient d'être à 17h au studio Kalangou. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal au micro Nefis Adam Sirfo. Au sommaire, à Niamey, les agressions physiques contre les citoyens avec souvent des armes blanches deviennent fréquentes et inquiètent la population. Le cri de cœur de quelques habitants est à suivre dans un instant. Il sera procédé le dimanche 19 mars au renouvellement des membres du Conseil supérieur de la communication. À suivre dans ce journal, un membre de la commission électorale qui explique le processus du vote. Le magazine de ce jour nous amènera à la découverte des Marie Stopes Ladies de Maradi. Ce sont des sages-femmes et infirmières qui accompagnent et facilitent l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive des femmes et des jeunes. La Journée mondiale des droits des consommateurs est célébrée chaque 15 mars depuis 1983. Cette journée est l'occasion de rappeler que les consommateurs ont des droits et qu'ils peuvent les exercer. Cette année au Niger, elle intervient dans un contexte de plusieurs défis selon le président de l'Association de défense des droits des consommateurs, ADDC Wadata. Maman Nouri est au micro de Mokhtar Hamadou.
Cette journée intervient dans un contexte d'abord où il y a la chèreté de la vie, d'insécurité presque généralisé dans le Sahel, dans un contexte où le paradigme unilatéral sur la question de la mondialisation est en train de s'ébranler, notamment à travers la guerre en Ukraine. Ce contexte est surtout caractérisé par nous en tant que pays de l'internat, une hausse relative des prix des produits de première nécessité dont nous importons. Parmi ces produits-là, on peut citer la farine de blé, le lait en poudre, le sucre, l'huile. Tous ces produits, nous les importons. Et malheureusement, sur le marché mondial, le prix de ces produits-là est en train de grimper. Nous subissons du coup les spéculations et surtout les contingences du marché mondial. Malheureusement, ces contingences-là, en tout cas, ne sont pas beaucoup plus maîtrisées chez nous.
Je vous le disais dans les titres, les agressions contre les citoyens dans la ville de Niamey sur les voies publiques deviennent fréquentes et inquiètent la population. Les vols à l'arraché avec armes blanches sont devenus monnaie courante. Comment les citoyens vivent-ils cette nouvelle situation? Réponse dans ce micro-trottoir réalisé par Fatima Lemiaro.
Donc, vu que tu ne peux pas avoir de travail, tu vas te mettre dans le banditisme et autres là. Les agressions, le vol et autres. On va se plonger là-dedans.
Les gens se plaignent beaucoup de cette situation. Rien que la semaine passée, une femme a été agressée et blessée au bras, son sac à main, son passeport et autres documents ont été retrouvés dans un terrain vague. Mais ses téléphones portables n'ont pas été retrouvés. Nous demandons à l'État de vraiment nous sécuriser. Le jour, on est obligé de rester chez soi.
Quand il y a l'obscurité, bien évidemment, le public est exposé. Donc pour cela, moi, je lance vraiment un cri de cœur, un cri d'alarme aux autorités concernées afin qu'elles puissent vraiment renforcer la patrouille.
En région, dans le cadre de la patrouille urbaine pour la sécurisation de la ville, les opérateurs économiques de Tessawa et de la diaspora ont décidé de faire don de carburant à la police de la ville. Ainsi, chaque mois, la police recevra 600 litres de carburant de la part de ces opérateurs économiques pendant 12 mois sous l'égide du chef de canton. La cérémonie de remise du carburant au titre du mois de mars a eu lieu hier. Écoutons Mohamed Mansour Kanemegizo, chef de canton de Tessawa, interrogé par Seydou Sanki.
C'est pour renforcer la cohésion sociale, la sécurité des personnes et de leurs biens. Ce sont les commerçants qui se sont concertés. Ils sont venus nous voir. Nous avons soutenu leurs recommandations. Et tous les commerçants ont adhéré. Chacun a contribué. Il y a eu des jerricans pleins de 30 litres pour appuyer la patrouille des FDS en carburant. C'est pour encourager les FDS à poursuivre leur mission de sécurisation. Nous ne voulons pas que les FDS soient bloqués. C'est pour cette raison que cette initiative a été faite. Et Dieu merci, elle a été bien accueillie et nous lançons un appel aux autres citoyens du pays de prendre en exemple cette initiative de population de Tessawa pour que la sécurité règne partout dans le pays. Au nom de la population de Tessawa, je remercie tous les commerçants. Cette initiative a pour but de voir la population dormir et se réveiller dans une atmosphère de sécurité.
Question sécuritaire toujours, deux morts, trois personnes enlevées puis ramenées par les les forces de sécurité. C'est le bilan d'une attaque perpétrée par cet individu armé non identifié dans le village de Gourgounhanou, situé dans la commune rurale de Sarkinyama, département de Madarounfa, dans la nuit du 14 mars. Soula Issoufou, maire de Madarounfa, explique au téléphone de Mohamed Maman.
La femme du chef de l'État de Gourgounhanou m'a appelé pour me dire que les bandits sont arrivés, ils sont donc au nombre de 7. Ils ont donc allé à cette personne, dont une femme, un mari, sa femme, un autre et un frère à l'homme qui avait sa femme. L'homme qui avait sa femme a refusé d'être amené. Donc ils ont tiré par deux parce qu'ils ont amené les trois. Il y a eu poursuite des militaires. Il y a des militaires de la position de Tankama, de la commune de Sibiri, et les visites de l'homme localité qui ont donc intercepté de l'autre côté, donc ils ont embusqué. Donc ils ont eu la chance de se retrouver les années avec les bandits, donc il y a eu des échanges de tirs. Après un peu de formation, donc les bandits ont lâché les sont amenés. Mais il y a eu une bande bandit qui est venue, qui est un deuxième. Donc le frère au premier tiré, c'est le même frère. L'homme et la femme ont été donc ramenés à la maison. On était donc ce matin avec le docteur à l'enterrement.
La suite de ce journal, le vote pour le renouvellement des membres du Conseil supérieur de la communication est prévu pour dimanche 19 mars. Comment le scrutin va-t-il se passer? Qui sont électeurs? Écoutons Souleymane Bra, secrétaire de la commission centrale chargée de l'organisation du scrutin, au micro de Fatima Lemiarou.
Les organisations socio-professionnelles légalement reconnues qui votent. Il y a trois pour les médias publics et à ce niveau, c'est les personnels de ces médias publics qui votent. Et parmi les trois candidats, il y a au moins une femme. Il y a un représentant élu des organisations de la société civile. Et ça, c'est aussi les organisations de la société civile qui votent aussi. Et à ce niveau, il faut préciser qu'il y a un comité conjoint, ministère de la Justice et ministère de l'Intérieur qui s'occupe de cette élection. Pour les créateurs culturels, aussi c'est les organisations, en tout cas, qui œuvrent dans ce domaine, qui votent. Il y a les agences des communication et de publicité. À ce niveau aussi, ils ont leur futur. C'est à ce niveau qu'ils votent.
Les Young African Leaders Initiative Yali de l'Afrique de l'Ouest organise son tout premier sommet des Alumni Yali à Niamey. L'objectif étant de réunir les anciens bénéficiaires du programme pour échanger sur des problèmes qui minent la société, comme l'indique le thème de cette année qui est le pari d'un leadership constructif dans un contexte d'insécurité, de crise migratoire et de menaces environnementales. Reki Abdoulaye Issa Boubé, présidente de l'association Yali Niger, au micro de Samira Rouafi.
L'événement qui nous a réunis ce matin, c'est le premier, mais tout premier sommet des alumni qui réunit les alumni du Yali, les alumni de Yali de l'Afrique. Donc il y a 14 pays qui sont représentés, qui sont venus d'un peu partout de l'Afrique. Les alumni, c'est les anciens bénéficiaires du programme Yali. C'est le tout premier sommet et c'est le Niger qui a eu l'honneur de l'abriter. Donc nous sommes là pour deux jours de travaux. À la fin de ce sommet, on espère vraiment tracer une feuille de route que les pays respectifs vont essayer de respecter. Et vraiment, à l'issue de ces travaux-là, c'est de discuter sur tout ce qui est éducation, santé, environnement, paix et sécurité, entrepreneuriat, migration, de toucher tous les mots qui mènent notre société et maintenant d'essayer de trouver des solutions. De confronter des cas de chaque pays aux cas peut-être qu'on n'a pas encore eu et nous dire, ah, si vous continuez dans cette direction, vous risquez de tomber sur telle chose parce que nous, dans notre pays, on a eu ça. Et c'est aussi ça, c'est des partages d'expériences entre les alumni.
En région, deux chefs de services municipaux de la commune d'Arlit ont été mis aux arrêts dans une affaire de détournement des taxes. Suite à une interpellation des conseillers municipaux, le conseil exécutif de la municipalité a convoqué une session extraordinaire afin d'examiner la question. Écoutons les explications du maire d'Arlit, Maulou Abdrahman, au micro de Moutari Abdoulaye.
Il nous a été donné de tenir un conseil extraordinaire à la demande des conseillers municipaux. Nous avons mis en place un comité composé de trois conseillers titulaires et trois suppléants, chargés d'examiner toute question relative à une infraction commise par un agent de la municipalité et qui va proposer au maire la sanction y afférente. L'infraction ne se limite pas à un détournement de biens publics. Il y a beaucoup d'autres infractions. Tout agent de l'État et même de la municipalité qui aurait commis une infraction et qui est soumise à la justice. La loi nous autorise à suspendre l'agent de ses fonctions en attendant le verdict du tribunal. Dans les textes, il est prévu une suspension de 5 mois. C'est la première mesure que le conseil a prise. Nous avons entendu les présumés. Ils ont été également entendus par la justice. Un dossier est ouvert. Nous les avons suspendus. Après suivra la sanction que la mairie va prendre. Mais l'inculpation, c'est du ressort de la justice.
C'est la justice.
La
La commune de Gaya abrite un forum sur la prévention des conflits frontaliers et la sécurité du bétail. Cette rencontre à multi-acteurs organisée par Promédiation a réuni plusieurs participants venus du Bénin, du Nigeria et du Niger. Ils vont échanger pendant 48 heures sur le problème de transhumance que vivent les éleveurs, selon Adamou Ali, chargé de mission à Promédiation. Il est interrogé par Balkis Sidi.
Dès qu'il y a une concentration des animaux dans la zone, il y a ce qu'on appelle le surpâturage. Dès qu'il y a surpâturage, il y a des maladies, il y a des sécheresses. Et pour quelqu'un qui vit de l'élevage, tant que ces animaux-là ne peuvent pas avoir là où ils vont paître, il a des problèmes. Mais quand un éleveur a des problèmes de faire paître ses animaux, il est obligé de franchir toutes ces dispositions de la loi-là pour rentrer dans les autres pays. Une fois qu'il rentre là-bas, il y a des règlements. Ils devront suivre. Deux fois, ils ne suivent pas ces règlements. Et ça crée des conflits entre ces éleveurs et les gens qu'ils vont trouver là-bas. Deux fois, des conflits mortels, des conflits où tu perds carrément ta capitale de bétail. Gaya fait frontière avec le Nigeria et le Bénin. C'est pourquoi on a choisi Gaya pour abriter ce forum, pour faire venir les vrais acteurs du Nigeria, du Bénin et du Niger, pour qu'on puisse discuter de façon concrète et réaliste par rapport à ce problème.
Les déplacés maliens qui fuient la région de Ménéka continuent d'affluer à Tchintabaraden dans la région de Tawa. À l'heure actuelle, on compte plus de 5000 ménages qui sont arrivés à Tchinta. Selon le porte-parole des déplacés, la situation sur place est acceptable. Abdelwahid Hamed est au micro de notre envoyé spécial Farid Bourema.
On nous a chassés de Arazaragan, région de Ménéka au Mali. On s'est déplacé en voiture et à pied jusqu'à Egara. Puis on continue sur Tassara et Tchintabaraden. Le déplacement est très fatigant. Les femmes et les enfants souffrent énormément. Les gens se sont éparpillés et se sont séparés de leurs proches. D'autres sont partis vers l'Algérie. Pour le moment, on estime à 5600 ménages qui sont enregistrés. Dieu merci, on est bien accueillis par la population et les soins médicaux sont gratuits.
Le magazine de ce jour nous amène donc à la découverte des Marie Stopes Ladies de Maradi. Ce sont des sages-femmes et infirmières qui accompagnent et facilitent l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive des femmes et des jeunes. Écoutons Habiba Hama Apollinaire, une des membres interrogées par Samira Rouafi.
Marie Stopes Ladies, ce sont des sages-femmes et des infirmières qui ont été recrutées par Marie Stopes International pour offrir les services de planification familiale à domicile chez la cliente. Et on fait les appuis dans les CSI et hors structure sanitaire encore dans les quartiers.
Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l'accomplissement de votre mission?
Les plus grandes difficultés, c'est le non-accord des maris. Parce que la femme vient, elle est fatiguée de faire le grossesse rapprochée, elle veut se reposer, mais le mari refuse. Alors elle vient en cachette pour prendre les prestations. Puis après, quand elle rentre à la maison, dès que le mari comprend qu'elle a pris quelque chose, c'est un problème à la maison. Elle est obligée encore de revenir pour dire d'arrêter ou d'enlever. C'est pas de son choix, c'est le mari qui impose. Sinon, il va la chercher ou bien il va la divorcer. C'est surtout ça. Et avec les adolescents, on part dans les quartiers pour les faire prestations parce qu'ils ont peur de la société, des retombées. Si quelqu'un la voit, c'est un problème encore.
Qu'est-ce que vous faites pour amener ces maris-là à accepter le fait que leurs femmes prennent les contraceptions ou bien à leur montrer l'importance de la PF?
C'est les sensibilisations continues qu'on fait pour le changement de comportement. Les données, les informations, les vraies informations sur la planification familiale, les avantages, les inconvénients, les effets secondaires. Et puis les expliquer encore l'importance que c'est pas que la femme ne va plus accoucher, non, elle va juste se reposer. Son organisme va se reposer, l'enfant va bien grandir, il sera bien éduqué. Elle va se reposer elle-même, elle aura du temps à consacrer à son mari que de toujours être enceinte ou bien en train d'allaiter un enfant.
Pour l'année 2022, à combien de femmes avez-vous porté assistance?
En 2022, j'ai reçu 2542 clientes, dont 1511 ont moins de 25 ans. Ce sont les jeunes adolescentes.
Est-ce que vous avez des objectifs pour l'année 2023 dans le cadre de ce travail par rapport à la PF?
Oui, les objectifs, c'est encore d'aller plus haut, continuer les prestations, continuer les sensibilisations pour que les maris acceptent que la femme soit autonome, qu'elle prenne sa décision concernant son corps, c'est son droit. Elle a le droit de choisir ce qu'elle veut pour son corps.
De ce journal, merci de votre attention. Restez à l'écoute pour la suite de nos programmes.